vivre heureux, vivons Cottier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cottier.
Allez, danse, danse, viens dans mes bras, allez, tourne, tourne, reste avec moi, allez.
Alors le monde quantique est en vogue, beaucoup d'auteurs, de chercheurs se penchent sur de nouveaux univers, ils ont découvert de nouvelles vies parallèles, de nouveaux plans. Il est temps de se demander si l'immortalité existe dans d'autres mondes parallèles. Pour m'accompagner, ma chroniqueuse historique, l'hypnothérapeute Irène Cazenave. Irène, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une émission atypique parce que nous avons l'immense honneur et la chance d'avoir un grand auteur et grand chercheur dans ces domaines, donc il n'y aura pas d'appel cette fois-ci. Nous avons avec nous en plateau Thierry Paul Milman. Bonjour Thierry.
Bonjour. Bonjour à tous.
C'est une émission interactive, on a lu vos questions sur les réseaux sociaux, on est là pour vous pendant toute l'émission, mais c'est surtout Thierry Paul Milman qui va vous répondre et vous allez découvrir son nouveau livre « Ondes et énergie cérébrale dans la physique quantique » aux éditions Vérone. Thierry Paul Milman, si vous deviez, on rentre dans le vif du sujet, vous définir en quelques mots, vous diriez, voilà, qui êtes-vous Thierry Paul Milman?
Je dirais que je serais un aventurier de la recherche, quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui se passe sur Terre. Déjà à 20 ans, en université, j'étais pas tout à fait d'accord avec nos professeurs, parce que je considérais que notre planète était en autarcie totale. Et donc ça, dans l'économie, ça n'existe pas, l'économie de l'autarcie, ce qui fait que toutes les théories économiques du monde sont toutes fausses. Il n'y a pas un prix Nobel d'économie, malheureusement, qui a fait une théorie valable pour l'humanité. Et j'ai toujours essayé de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Et je dois dire que j'ai fait donc un doctorat des sciences économiques, pas en économie, mais S-sciences économiques. Cela veut dire que, hormis l'économie, vous avez l'économétrie, les mathématiques, c'est évident, mais aussi toutes les sciences sociales qui vont avec, jusqu'à l'histoire, la géographie, les mythologies, et tout ce qui fait la vie de l'homme. Et ça donne une culture assez large. Et j'étais confronté dans mes activités professionnelles à une réflexion qui consistait à essayer de comprendre pourquoi les hommes passaient leur temps à se détruire, passaient le temps à détruire tout ce qu'ils pouvaient construire, alors que nous sommes aujourd'hui dans un siècle scientifique, si je puis dire, entre guillemets, où il y a une grande disparité entre l'homme des cavernes qui vit encore d'une façon hallucinante dans les pays sous-développés et puis les scientifiques de haut niveau qui vivent dans l'espace et l'infini, certes, mais il y a une constante qui fait que depuis la nuit des temps, les hommes passent leur temps à se détruire, à s'envahir. Et c'est assez surprenant parce que même dans l'Antiquité, vous avez des peuples qui ont envahi d'autres, comme les barbares germaniques ont envahi les Romains, mais ça n'a pas été pour s'approprier toute la science des Romains. Ils ont tout détruit.
C'est intéressant, Irène Cazenave, même sur un plan psychologique, on reprend, chers amis auditeurs, par rapport à ce que nous dit Thierry Paul Milman, ce magnifique chef-d'œuvre d'Erich Fromm, La passion de détruire, n'est-ce pas, qui est un chef-d'œuvre absolu au XXe siècle. C'est vrai qu'il y a dans l'espèce humaine quelque chose, dans le genre humain, hein, qui est une passion de détruire, vous vous rappelez de ce chef-d'œuvre?
Oui, mais c'est Eros et Thanatos aussi. C'est vraiment cette question de détruire et construire où on est dans cette ambivalence en permanence en tant qu'être humain.
C'est assez étonnant. Thierry Paul Milman.
Et en fait, c'est beaucoup plus facile en fait à comprendre quand vous savez comment est constituée la physique quantique.
Alors, on y vient, parce que c'est vraiment là-dessus, on va arriver tout de suite à l'entrée de votre livre, Thierry.
Absolument, et vous regardez dans l'univers est à l'image des hommes, l'univers passe son temps à créer, à détruire, c'est et le chaos, l'immobilité, la destruction.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé
dans l'univers, c'est comme ça.
Donc, aller vers ce livre. On est fait de ça. On est fait comme l'univers. D'ailleurs, vous le dites.
Et donc, on raisonne de la même façon.
Vous le dites dans ton livre, l'homme est une poussière d'étoiles et de la poussière d'étoiles. Bien.
Alors ça, c'est Hubert Reeve qui est le premier à
l'avoir dit. Ouais. Onde et énergie cérébrale dans la physique quantique. Hein, c'est vrai que moi, comme vous, vraiment, j'étais passionné par votre livre parce que j'adore tout ce qui est l'idée de nouvelles découvertes quantiques depuis quelques décennies. Mais quand même, quel a été le moteur là de ce nouveau livre? Qu'est-ce qui a été le détonateur, le trigger, comme on dit au stade?
Il y a eu un premier livre que j'ai écrit pour Jean d'Ormesson.
Alors, on va y venir, cette grande rencontre avec Jean d'Ormesson.
Ce premier livre, en 2010, qui a été publié en 2012, je l'ai écrit pour lui montrer qu'il était doublement immortel. D'une part parce que c'est un académicien, ensuite parce que c'est un ami fantastique, et surtout parce qu'on a une conception d'immortalité que la science n'avait pas pu démontrer jusqu'à maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après 20 ans d'études de physique, je me suis penché sur la question plus précisément. Parce que la petite histoire qui est amusante, pourquoi de l'économie je me suis mis à la physique, je l'ai écrit dans le livre, c'est parce que ma femme, qui est non seulement une très belle femme, mais qui est très intelligente et
comme
extraordinaire,
aussi.
m'a offert une galaxie pour mes 40 ans.
Oh bah c'est beau.
Quelle idée.
Oui, alors j'ai le nom, chers amis auditeurs. Est-ce que c'est votre femme qui vous a offert Carmelo Pardalis?
Carmelo Pardalis, qui veut dire
girafe.
Vous
avez
girafe.
Eu ça comme cadeau?
J'ai eu ça comme
D'ailleurs,
cadeau.
D'ailleurs, souvent, au détour du livre, on dit, mais alors, qu'est-ce que Carmelo Pardalis? C'est un cadeau d'anniversaire pour voilà. Thierry Paul Milman de la part de sa femme.
Une galaxie. Voilà. Et donc, avec mon humour habituel, je dis, bah, on va aller la voir, cette galaxie, puisque tu me l'as offerte, bien évidemment. Il n'y avait pas de vaisseau en partance pour cette galaxie.
Il fallait appeler Elon Musk.
Il fallait
appeler Elon
Musk. Moi, je suis plutôt du genre à construire moi-même mon vaisseau.
Ah oui, vous l'auriez fait.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme, gentiment, m'a dit, écoute, Thierry, on va commencer par le commencement. Je t'offrir les théories de la gravitation universelle de Newton et après tu vas voir si on peut décoller de la Terre. Et bon, par bravade, je l'ai lu, ça m'a passionné. Ce qui me cassait les pieds royalement quand j'avais 20 ans m'a passionné quand j'en avais 40.
Ah oui.
Et donc j'ai continué, je suis allé jusqu'à la théorie des cordes en passant par Einstein et tous les autres et je me suis fait faire avec plaisir, j'ai fait 20 ans de physique quantique et donc j'ai appris à découvrir tout ce que je ne savais pas et l'explication générale de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et
je peux vous poser une question, alors. Est-ce que ce serait vrai qu'on n'est qu'une part de nous ici et que quelque chose est resté là-haut? Vous savez, c'est une vision un peu qu'ont les Américains et qu'il y a ça qu'on retrouve après.
C'est beaucoup
notre
plus
double.
Beaucoup plus compliqué.
On commence très fort là, mais je vous propose de rester une page musicale.
Et beaucoup plus simple.
Et vous allez répondre après, Thierry Paul Valère. Restez avec nous, c'est passionnant. Vraiment, vous allez voir, le livre est très profond. Vous allez trouver beaucoup de choses. On passe une page musicale et on retrouve avec plaisir Thierry Paul Milman.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens. Je t'emmène loin.
chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, de Santa Popcorn Salé. Je l'adore. Vous êtes toujours sur la numéro 1 des radios Dynamique Radio avec Thierry Paul Milman dans Pour vivre heureux, vivons coaché, et Irène Cazenave, ma chroniqueuse historique. Ondes et énergie cérébrale dans la physique quantique. Alors, nous en étions à cette histoire. Et j'aimerais continuer avec vous, Thierry Paul Milman, pour vous expliquer aux éditeurs qu'est-ce que la force créatrice.
Eh bien, la force créatrice ne veut rien dire en soi, hélas, parce que nous avons un univers qui est constitué de quatre forces, qui sont les forces électromagnétiques, les forces nucléaires faibles et fortes et gravitationnelles. Tout est régi par ces quatre forces. Qui les a créées ? Personne ne le sait. Soyons honnêtes, et les scientifiques, même Hawkins y est revenu, parce que le fait de dire que tout se crée de soi-même, c'est bien gentil, mais ça n'a pas de sens. Ça a d'autant moins de sens, c'est que votre univers est infini. Donc quand on dit infini, c'est bien gentil, on a un terme mathématique, c'est un 8 horizontal, tout le monde connaît ça, ceux qui ont fait des mathématiques, mais ce n'est pas pour ça qu'on est capable de l'expliquer. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre cerveau est à l'image de l'univers, puisqu'il a un raisonnement qui est infini, mais c'est infini, quand on commence à dire « il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de borne, il n'y a rien », ça crée un malaise. Comme dit Schopenhauer, dès qu'on commence à parler de ça, la seule chose qui en reste, c'est le mal de tête. Donc, essayer de démontrer qu'il y ait une idée créatrice, qu'il y ait un dieu, qu'il y ait quelque chose, est totalement absurde. La seule chose que l'on peut constater, c'est le fait de l'existence. C'est tout. On sait que ça existe parce que c'est là. Comment, pourquoi, on n'en sait strictement rien, absolument rien.
Comment donc, voyez-vous ça, vous, Irène Cazenave, ce que nous dit Thierry Paul Milman ?
Il y a cette question où l'homme est confronté, je vais parler en termes psychologiques, à sa finitude. On est vraiment dans ces questions-là où on est aussi limité par nos 5, peut-être 6 sens, et où on a du mal à conceptualiser cette notion d'infini. C'est quelque chose qu'on... Alors, on l'a conceptualisé effectivement en mathématiques, où il y a ce symbole, mais ça reste un symbole. Il y a un moment où on est limité par nos perceptions humaines et par cette question de finitude. Donc, il y a plusieurs modes dans ce cas-là. Il peut y avoir une forme de déni où on fait semblant que les angoisses existentielles, ça ne nous concerne pas tellement. Il y a une démarche plus scientifique d'aller essayer de comprendre et puis de voir comment à un moment on accepte de ne pas savoir parce qu'il y a des choses où on ne peut pas savoir.
Thierry Paul Milman.
Oui, je comprends très bien votre point de vue, mais ça c'est parce que vous restez à un niveau matériel. Vous pensez que votre vie c'est votre corps. Et dès lors que vous savez comment vous êtes construit et que votre corps n'est rien d'autre qu'un ordinateur organique quantique qui est porteur de votre vie mais qui n'est pas votre vie, vous avez une réflexion totalement différente. Quand vous dites aux gens qu'on ne voit rien avec ses yeux, qu'on n'entend rien avec ses oreilles, qu'il n'y a pas un son qui sort de ma voix, je vois dans votre regard, mon cher, que vous dites « qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Et c'est pourtant la réalité. Nous voyons quoi ? Nous voyons des ondes lumineuses qui sont immatérielles et qui viennent refléter tout notre environnement pour percuter notre rétine. Et quand elles percutent notre rétine, ça devient une matière qu'on appelle le photon. C'est la dualité onde-matière, c'est-à-dire que toute onde est matière et toute matière est onde. Albert Einstein a mis 20 ans pour l'admettre, alors vous, je vous demande de l'accepter en 5 secondes, je comprends que c'est difficile. Mais même chose, et alors donc, une fois que les photons ont bombardé notre rétine par milliards de milliards de milliards de milliards à chaque nanoseconde, c'est un morse d'électrons qui est envoyé aux neurones visuels de notre cerveau qui, en vibrant, recrée l'image de notre environnement. Mais cet environnement, on ne le voit pas avec nos yeux. Alors, c'est notre cerveau qui le recrée.
Pour le béotien, Thierry Paul Milman, et pour que nos éditeurs, parce que c'est passionnant et tellement profond, on va partir, c'est mieux que France Culture, on est à Mac 3 les enfants, mais pour que vous vraiment vous compreniez ce que vous dites Thierry Paul Milman, et c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est traiter de thèmes très profonds, très complexes, très scientifiques, mais en essayant d'une, moi au sens noble, c'est ce que j'adore, une vulgarisation intelligente.
Ce que vous dites,
Thierry Paul Milman, c'est que tout est vie, pour prendre un acronyme, c'est-à-dire vibration, information et énergie plus les quatre forces de l'univers, et lui il le développe pour essayer de comprendre si, et on va voir au fil de livre, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait amener à l'immortalité. Voilà, c'est ça que vous dit Thierry Paul Milman, mais il le dit dans son livre, à la différence d'autres chercheurs, d'une manière, et c'est ça qu'on a aimé, n'est-ce pas Irène, très compréhensible, très abordable, et c'est le terme, parce que c'est complexe que vous développez, Thierry, on est d'accord, c'est très complexe, on sent des années de travail derrière, je suppose, de votre part, et donc l'idée aussi, c'est que monsieur tout le monde, un béotien, puisse comprendre que le cerveau quantique, il baigne dedans, et on baigne tous dans ce que j'ai appelé vibration, information et énergie, Thierry Paul Milman.
On est d'accord, ce livre, normalement, devrait faire 3 fois plus de pages. Et j'ai retiré toutes les démonstrations mathématiques.
Vous avez bien
de
fait.
Physique, je dis, parce que si on commence là-dedans, c'est plus possible.
Vous allez noyer tout le monde.
Ce qui m'a valu quand même quelques déboires, parce que dès lors que vous n'êtes pas un scientifique reconnu, attaché à un centre de recherche, vous ne pouvez pas être, dans notre pays comme ailleurs, un scientifique indépendant qui découvre, trouve et utilise le travail des autres scientifiques pour faire avancer la science. Donc ça, c'est très, 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 très particulier. N'oublions jamais que Albert Einstein a dû se contenter d'un poste subalterne à l'enregistrement des brevets de Berne parce qu'on refusait de le considérer comme un physicien sous prétexte que c'était un physicien indépendant. Alors vous pensez bien que le docteur Thierry Paul Milman, qui n'est pas physicien en plus, qui va écrire sur la physique quantique, mais c'est un rigolo, un mage quelconque, qui n'est pas intéressant. C'est ça le problème dans notre pays.
C'est bien la France, hein.
C'est la France.
C'est la France. Ouais.
C'est comme ça. Du reste, vous avez deux magazines, pour ne pas les nommer Science et Vie, Science et Avenir, qui ont carrément refusé même les publicités de l'éditeur parce que ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, sans même avoir lu la première page, sans même savoir qui je suis, sans même connaître les raisons de cet ensemble.
Donc, Francis, il faut la carte.
J'ai retiré toutes ces démonstrations mathématiques qui n'apportent pas grand-chose, sinon la gloriole de dire je comprends la physique et je comprends les mathématiques, mais ça n'apporte rien au commun des mortels qui essayent de comprendre ce qui se passe. L'intérêt pour moi, c'était déjà de démontrer aux gens comment ils sont construits. Je suis, bien évidemment, comme tout le monde, je me suis orienté vers la biologie moléculaire et la chimie organique au départ. Et puis c'est François Gros qui m'a dit « Thierry, vous faites l'erreur, vous n'allez rien trouver au niveau matériel. Il faut aller dans la physique et la physique quantique pour trouver la réalité de ce que nous sommes. » Et c'est Cortès, qui est physicien, qui m'a ouvert un petit peu la voie et qui m'a dit « Bon, effectivement, il faut chercher là-dedans et il faut aller chercher dans le quantique, c'est-à-dire au niveau de la particule. Tout se passe au niveau de la particule. » Et là, je dois dire que quand on commence à regarder comment nous sommes construits, c'est absolument faramineux. Mais pour comprendre comment nous sommes construits, il faut déjà comprendre comment l'atome est construit et comment la physique quantique fonctionne, sans quoi vous ne pouvez pas savoir comment votre corps réellement fonctionne. La chose est très simple. Vous avez un atome de base qui s'appelle l'hydrogène, c'est-à-dire vous avez un petit noyau, on va passer sur les quarks et le reste, et vous avez simplement 3 petites particules qui tournent autour, qui sont un électron, un proton et un neutron. L'électron c'est négatif, le proton c'est positif, et le neutron c'est neutron, c'est neutre. Et tout part de là. C'est-à-dire que toute la matière de l'univers, c'est à la base ce petit atome. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites, bon, comment un petit atome comme ça va construire toute la matière, y compris les planètes, et y compris ce qui va dessus, les hommes. Et là, il y a effectivement un autre système qui devient extraordinaire, le fameux toute onde est matière, toute matière est onde, et en particulier l'électron. Dans les 4 forces, vous avez, toutes les interactions nécessaires au maintien de l'ordre de ces particules par rapport au noyau. Sauf que, par quel miracle, on ne le sait pas. Parce que là aussi, dans la science, il y a une expression que les scientifiques ont du mal à dire, c'est « nous ne savons pas ».
C'est dur à dire ça.
Ça, c'est quand même
extraordinaire. Pour un scientifique, c'est dur ça.
On ne sait pas.
Ce sont des sachants beaucoup. Hein. Ils ont besoin de savoir et dire qu'ils savent. Hein.
Les scientifiques, effectivement, moi-même je suis agnostique, je sais ou je ne sais pas, mais je ne crois à rien, absolument à rien. Je sais ou je ne sais pas. Et donc, si vous voulez, il a fallu trouver des éléments de liaison. Parce que quand vous prenez un verre d'eau et vous ajoutez une goutte d'eau dans votre verre d'eau, vous n'avez jamais qu'un verre d'eau avec une goutte d'eau plus supplémentaire. Et bien, le créateur, quel que le nom que vous faites, que vous pouvez dire, quand lui, il met une goutte d'eau dans un verre d'eau, il obtient quoi ? Une rivière de diamants. C'est ça, l'univers, c'est comme ça qu'il se construit. Autrement dit, vous avez...
On va passer une page musicale, Thierry. On va continuer. C'est passionnant. On va avancer sur d'autres chapitres. Évidemment, vous savez, restez avec nous. Nous avons la chance d'avoir Thierry Paul Milman. à tout de suite, on passe une page musicale.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre sans aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Un chef-d'œuvre de Florent Pagny, Savoir aimer. Nous sommes toujours sur Dynamique Radio avec Irène Cazenave, notre chroniqueuse historique, et surtout, chers amis auditeurs, Thierry Paul Milman, auteur de ce nouveau livre Ondes et énergie cérébrale dans la physique quantique. Thierry, on était parti. À un moment donné, au détour d'une page, vous dites cette phrase qui m'a interpellé, et il faut vraiment que vous éclairiez les auditeurs là-dessus, parce que vraiment, c'est passionnant. L'erreur est de croire que nous mourons.
Ben oui.
C'est quand même très intéressant. Donc,
on ne meurt pas.
Alors expliquez aux auditeurs.
C'est notre corps qui part.
Expliquez ça aux auditeurs.
Donc quand je vous parlais de l'électron tout à l'heure, et c'est là, il faut que j'explique comment nous sommes constitués, sans quoi on ne va pas y arriver. Donc l'électron, lui, permet de lier les atomes entre eux pour faire toutes les matières, hein, toutes les molécules sont devenues des tissus, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des associations extrêmement intelligentes, entre guillemets, de tous les atomes. Et quand on voit la conception d'un homme, enfin l'humain à travers son ADN, pour aller concevoir un ADN, qui, comment, on n'en sait strictement rien, on ne peut que l'observer, on sait qu'on a un ADN qui est constitué de quoi ? D'atomes. Et l'atome, ces atomes, suivant l'ordonnancement dans lequel ils sont créés, associés, ils vous donnent des matières différentes, et c'est pour ça que notre corps a à peu près toutes les composantes de toutes les matières qui existent dans l'univers.
Partout. Alors, partout. Pour le Béotien,
et alors,
Thierry.
Pour arriver jusqu'au bout,
après je vous pose la
donc,
question.
Nous, tout notre corps n'est qu'un ensemble instable de particules élémentaires. Donc, notre corps est là pour porter notre esprit, en quelque sorte. Quand je disais tout à l'heure qu'on ne voit rien avec ses yeux, qu'on n'entend rien avec ses oreilles, qu'il n'y a pas un son qui sort de ma bouche, c'est exact. Tout est retranscrit dans notre cerveau. Quand je vous touche la main, vous ne sentez rien. C'est simplement un influx nerveux qui vient titiller vos neurones du cerveau et qui recrée cette sensation de toucher. C'est la même chose quand vous buvez, quand vous respirez, tout, absolument tout. Donc nous ne sommes qu'une machine organique émetteur-récepteur.
Et donc, bien, quand Thierry Paul Valette nous dit ça, alors que nous, le choléra, quand que nous mourrons.
Ça permet, et parfois en psychologie, on parle, nous, de saut quantique. Quand on a des compréhensions, de nouvelles connaissances, une nouvelle conscience qui permet de changer complètement de point de vue sur une situation.
C'est vrai ce que dit, vous savez, Thierry Paul Valette, c'est qu'il y a des ponts maintenant entre nos métiers, la psycho, la thérapie, le développement personnel, le coaching, s'intéresse énormément à vos recherches. Donc il y a des ponts, on fait beaucoup de ponts entre les sciences qu'on appelle dites molles, nous, nous, on fait ce qu'on peut, et vous, les sciences, parce que c'est très, on parle beaucoup de ça maintenant, on utilise vos découvertes.
Effectivement, ça permet d'avoir un éclairage complètement nouveau, une perception complètement nouvelle, et de retrouver de la souplesse, parce que quelquefois les pathologies, c'est qu'il y a une raideur dans les croyances et dans le mode de fonctionnement.
Thierry Paul Valette.
Donc ce problème, si vous voulez, est assez compréhensible parce qu'on s'arrête toujours au corps. Or, nous avons une dualité, c'est-à-dire que nous avons une partie matérielle qui est constituée d'atomes et une partie immatérielle qui est notre vraie vie, qui n'est que constituée d'ondes et d'énergie. À chaque fois que vous avez un vécu quelconque, vos neurones émettent des ondes. Alors maintenant, on les comprend, on peut même les capter avec les électroencéphalogrammes, on est capable d'avoir des machines qui ouvrent des portes, ferment de la lumière, etc., rien que par la pensée en captant ces ondes. Donc là, on sait que ces ondes existent. À chaque fois que vous avez un élément quelconque, ce sont des ondes qui sont utilisées. Quand vous ouvrez une porte, et bien c'est vos neurones qui vont rechercher l'onde mémoire de comment on ouvre une porte. En quelques milliardièmes de secondes, de nanosecondes, on ouvre la porte et puis ça revient dans l'armoire mémoire. Tout cet ensemble, ce ne sont que des ondes et de l'énergie. C'est ça notre vraie vie. Notre corps matériel, ce n'est pas notre vie. Notre corps matériel n'est que le support de notre vie. C'est un émetteur-récepteur et rien d'autre, comme un écran de télévision, comme un poste de radio. Notre vie, c'est dans notre cerveau et rien d'autre. Le seul problème, c'est que comment toutes ces ondes peuvent-elles rester ensemble ? Parce que quand vous jetez un caillou dans une mare, ça s'évapore au bout d'un moment. Et là, il fallait bien trouver un système pour que ces ondes restent concentrées. Et c'est cette concentration de ces ondes qui font notre vraie vie, notre vraie personnalité. Je reviendrai tout à l'heure, après, sur les ondes de l'intelligence, du cerveau et de la pensée, qui sont indépendantes de toutes les ondes qui sont constituées par notre fonction organique journalière, c'est-à-dire que vous ouvrez une porte, c'est un geste, donc vous avez l'onde du geste, et ainsi de suite. Mais la pensée, c'est encore autre chose. Et l'énergie qui va avec, encore autre chose.
Je vais vous poser une question là-dessus. Il y a quelques semaines, là, il y a une poignée de jours, on a découvert qu'une IA avait capté la possibilité, ce qui est assez rare maintenant, de trouver ce que pensait un homme. On doit s'en effrayer, Thierry, ou pas ?
Non, pour l'instant, j'y crois pas du tout, parce que nous n'avons pas les capacités électroniques, entre guillemets, à capter les ondes cérébrales humaines et encore moins de la pensée. Alors on arrive peut-être, comme je vous ai dit, on peut ouvrir une porte, allumer une lumière, etc.
Ça m'avait effrayé, ça va pas loin.
Ça, vous savez,
c'est la suprême liberté de l'homme, ce qu'il pense.
C'est dans le même domaine que ceux qui vous tordent les cuillères avec les ondes de la vue. Bon, tout ça,
au détour d'un passage, d'un chapitre, je peux vous poser cette question,
finissez. C'est extrêmement important. Vous avez cet ensemble d'ondes qui est constitué dans notre cerveau et qui est notre vraie vie. C'est comme ça que l'on voit, qu'on entend, qu'on parle, qu'on goûte, que l'on vit. On fait l'amour avec des ondes, pas avec notre corps. Et le problème majeur, c'était de savoir comment ces ondes pouvaient rester stationnaires dans notre cerveau et comment elles pouvaient rester englobées pour former une personnalité. Et ça, c'était le grand point d'interrogation. Dans mon premier livre, Nous sommes tous immortels, c'est quelque chose que j'ai effleuré, mais que je n'ai pas démontré parce que ça n'existait pas encore. On n'avait pas fait la découverte, les physiciens n'avaient pas fait la découverte. Penrose, qui est un mathématicien et un physicien de renom, prix Nobel britannique, extrêmement intelligent, a essayé en 2016 de faire ce que je viens de faire dans ce livre. Il n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'il a placé ce système ondulaire, je dis ondulaire et pas ondulatoire, parce qu'ondulatoire, c'est un mouvement ondulatoire, mais quand vous rajoutez l'énergie qui va avec, j'appelle ça ondulaire. C'est un mot inventé, mais il faut bien les inventer quand il n'y a rien qui existe. Il a essayé de faire son système et il a localisé tout notre système d'ondes dans des microtubules. Ce sont des microfibres qu'il y a dans les neurones qui pourraient être un petit peu comparables aux fils optiques que l'on a pour la télévision ou autre. Sauf que le problème, c'est que quand ces fibres des microtubules disparaissent avec la décomposition, la désagrégation atomique particulière du corps, eh ben, les ondes s'évaporent. Et pour lui, c'était « elles s'évaporent dans la nature ». Eh bien oui, ben, on est bien gentil. Alors, si vous vous éparpillez dans la nature, c'est pas ce que j'appelle être immortel. Vos ondes sont éparpillées puis terminées. Mais c'est pas parce que vous avez une onde d'ouverture d'une porte, de boire un verre d'eau ou d'embrasser une femme que ça vous fait une personnalité.
Alors Thierry, vous dites à un moment donné…
Là, je voudrais juste finir parce que ça devient très important.
Après, on va
très
vous
important.
Poser cette question-là.
Là, pourquoi j'ai pu écrire ce livre, c'est que les scientifiques ont découvert, au même titre, et ça, je me posais la question, j'ai dit, dès lors que nous avons des électrons de valence qui permettent de lier ensemble de la matière, sachant que ces électrons, c'est aussi des ondes, pourquoi n'y a-t-il pas des ondes de valence qui existent, qui pourraient englober le tout ? Et c'est là où il y a eu l'extraordinaire découverte de ces ondes de valence, qui sont devenues des ondes orbitales, et qui permettent de conserver, comme dans un bocal, la totalité de nos ondes.
Elle a eu lieu quand cette découverte ? Et où ?
Ah, écoutez, c'est postérieur à 2016, puisque Penrose ne les a pas utilisées, et moi je les ai trouvées dans 2018, grâce à mes recherches, mais ce n'est pas moi qui les ai découvertes, soyons clairs. Ouais. Et donc automatiquement, si vous voulez, ça a permis de finaliser la notion d'individu ondulaire.
C'est intéressant.
On a une coque, une protection, avec à l'intérieur la totalité de notre vie depuis le fœtus, qui fait que toutes les ondes de notre vie sont concentrées dans cette onde générale qu'on appelle l'onde de valence.
L'onde de valence. Alors pour le béotien, à un moment de votre livre, vous dites, j'ai trouvé l'image très belle, et il va nous la décrire, je sais ce que ça veut dire, vous dites notre corps fonctionne comme un pays, n'est-ce pas ? Et nos cellules comme des villes.
Exact.
Alors pour les auditeurs de Pour vivre heureux, ils vont coacher. C'est-à-dire, Thierry Paul Milman, pourquoi notre corps fonctionne comme un pays et nos cellules comme des villes ?
Mais
Thierry Paul.
C'est amusant, la constitution, parce que notre corps a une organisation générale, avec un chef, si je puis dire, qui est notre cerveau, et dans le cerveau, qui commande notre cerveau, c'est notre pensée. D'où vient notre pensée ? On n'en sait rien. Parce que les ondes cérébrales dont je vous parle tout à l'heure, ce sont des ondes qui sont fonction de notre matière, qui existe parce que nous existons matériellement. Mais notre pensée, notre intelligence, d'où elle vient ? Personne ne le sait. Or, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est 95% de la matière qui n'existe pas dans l'univers. Et pourtant, cette matière, elle existe, puisque toutes les thèses, toutes les théories des physiciens sont justes. Albert Einstein disait, il me manque 95% de la matière, mais mes équations, elles sont justes, elles sont vérifiées. Et oui. Donc, dans ces 95% de matière, il y a forcément de l'énergie. On ne sait pas d'où ça vient. Ça fait partie d'un ensemble. Elle existe, elle est là. Notre cerveau est généré par des ondes d'intelligence de notre esprit qui est aussi de l'énergie.
C'est
donc ça, c'est particulier. Donc, si vous voulez...
Attendez, on va voir ce que
c'est
dit
l'hypnothérapeute. C'est le président de la République.
C'est le président de la République. Qu'en pense l'hypnothérapeute de tout
Alors,
ça ? C'est vrai que nous, on n'arrête pas de parler de ça sur d'autres scènes, Thierry Paul Milman, parce
c'est
que
ça.
Nos stagiaires, on les tire vers ça pour comprendre un petit peu. On va jusqu'à même les livres de Jerry et Astérix, qui ont été développés avec Abraham, qui là-haut leur parle. Enfin, c'est très intéressant d'avoir un scientifique de sciences exactes qui nous fait écho à ce qu'on fait, nous, en utilisant en fait ce thème.
C'est passionnant.
Irène Cazenave.
Parce que nous, on travaille beaucoup avec des gens qui ont des pensées, on va dire, dysfonctionnelles.
Toxiques.
Quelquefois toxiques, qui vont vers, parfois, abîmer le corps. qui vont vers, on en parlait tout à l'heure, vers la destruction et la destruction de soi. Donc là, de redonner une définition scientifique de ces pensées,
surtout avec l'énergie,
avec l'énergie, de retrouver aussi cette question de, à la fois, moi j'aime bien cette question, mais je dirais plus sur un plan thérapeutique, de notion d'avoir des agents de liaison, parce que souvent on a des maladies qui sont liées à l'absence de lien, à l'absence de lien à soi, à l'absence de lien aux autres, et de se dire que ben, en fait, dans l'univers, il y a ces agents de liaison, il y a cet agent de cohésion aussi qui fait notre unité et notre unicité. Donc pour nous, pour les métiers, pour les questions thérapeutiques, c'est une vraie plus-value de pouvoir avoir, et je vais reprendre ce terme, de saut quantique, de pouvoir avoir cette appréhension et ce regard-là.
Thierry Paul Milman.
Oui, alors, vous revenez toujours à la matérialité. Vous parlez de maladie, etc. Alors, quand je vous disais, donc, on agit comme des villes et un pays, bon, le président de la République, c'est notre cerveau.
Ouais.
Notre pays, c'est la totalité de notre corps, et l'intérieur de notre corps, nous avons des tissus, des cellules. Une cellule, c'est une ville avec un maire, avec des ouvriers qui reconstruisent la cellule, avec tout un système qui fait que cette cellule se reconstruit. Alors, ce qui est assez extraordinaire, et c'est là où il y a une petite erreur dans l'échafaudage général, l'architecte en question, il aurait dû revoir ses plans avant de nous construire définitivement, mais quand on voit qu'il a commencé par les dinosaures, soyons heureux qu'on ressemble à des humains. Mais...
c'est pas si mal.
Les cellules, c'est exactement comme si vous aviez un architecte. L'architecte a construit votre maison de rien, donc c'était des matériaux neufs. Vous êtes un enfant, puis vous êtes un adulte. Et puis après, il dit, oh, bah, vous avez les fenêtres qui prennent l'eau parce qu'on a pris un mauvais béton ou un mauvais ciment, donc on va vous changer les fenêtres. Très bien. Alors on vous change les fenêtres, seulement au lieu de vous mettre des fenêtres neuves, ils vous mettent des fenêtres plus vieilles. C'est comme ça qu'on vieillit. C'est-à-dire que nos cellules reconstruisent des cellules à l'identique, mais vieilles.
Et pourquoi ça?
Eh bien, parce que c'est une anomalie de l'architecte qui a mis les plans en place. Alors, si d'un point de vue biologique, ça on connaît, hein, vous avez les télomères qui fait que ça s'use et qu'automatiquement la reproduction ne se fait pas de la même façon. C'est toujours le même système, c'est-à-dire que vous avez des électrons qui se barrent, qui se font la malle, qui vous disent « Ciao, j'en ai ras-le-bol de votre structure, je vais voir ailleurs ce qui se passe », le fameux électron libre. Quand vous parlez d'une maladie, on va parler du cancer pour s'amuser. Eh bien, ce n'est rien d'autre que des électrons qui sont allés se mettre en masse sur des cellules saines et qui ont transformé cette cellule saine. Et cette cellule saine qui va mettre 3 semaines pour se reproduire, la cancéreuse, elle va mettre quelques jours. Parce qu'ils y vont à fond, les électrons. Vous voyez, c'est nous qui on va gagner, on va le développer. Très bien, c'est des cellules quasiment immortelles au niveau électron. D'électronique, j'entends, de l'atome, mais qui nous conduisent au cimetière. Voilà.
On va passer une page musicale et on va continuer sur la dimension de votre vision, parce qu'on va vraiment arriver, chers amis auditeurs, restez avec nous, c'est passionnant, sur cette histoire d'immortalité.
Les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait. Sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on cède par le monde, faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs, et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté. Jusqu'au bout de l'éternité, je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier.
Pour les enfants du monde entier, Yves Duteil, on en parlait en off, on aime beaucoup Yves Duteil, on pense à lui aussi, effectivement, à sa famille, on aime beaucoup Yves Duteil. On aime aussi beaucoup le livre de Thierry Paul Millman, Ondes et énergie cérébrale dans la physique quantique. Alors Thierry, venons-en à d'autres passages de votre livre où là, vous éprouvez le besoin, à notre grand plaisir, de dégrainer beaucoup de civilisations et tout au long de voir de l'humanité, tout ce qui a pu se dire. Alors on passe par l'Égypte, la Chine, le Japon, l'Inde, le sanskrit. Pourquoi nous avons décidé de passer tous ces chapitres-là au peigne fin, j'ai envie de dire, hein.
D'abord parce que ça me plaît. J'aime bien l'histoire, j'aime bien l'histoire des civilisations, j'aime bien l'humanité dans ce qu'elle a de belle. Et comme je disais à Jean Dormesson un jour, je crois qu'on connaît l'un comme l'autre toute la planète, on n'a jamais été déçu par la Terre, on a toujours été déçu par les hommes. Et il est vrai que c'est curieux de voir que dans la conception humaine, il y a cette notion intrinsèque, si je puis dire, des divinités, d'essayer de comprendre comment on est venu et ce qu'on fait sur Terre, et surtout que la mort est une absurdité totale, qui est donc forcément quelque chose d'autre, parce que très franchement, si on vient sur Terre pour vivre quelques dizaines d'années et puis mourir derrière, bah autant s'asseoir dans un coin et puis attendre que ça se passe. Donc il y a forcément autre chose. Et alors toutes les civilisations, toutes, absolument toutes, ont toutes développé cette notion post-mortem, qui est plus ou moins imagée, qui peut être amusante et parfois complètement farfelue, mais c'est une notion très particulière que nous avons dans notre esprit, et ceux qui l'ont le mieux exprimé, ce sont les philosophes grecs, qui ont vraiment essayé de développer cette conception atomique de l'être humain et de la pensée et de la vie. Et là, je dois dire que quelque part, nos atomes qui nous permettent de penser, en quelque sorte, puisque c'est grâce à eux, c'est grâce à nos atomes qui forment notre corps que nous pensons, que nous vivons, n'oublions pas, et bien peut-être que ces atomes ont une pensée quelconque qui nous a conduit nous-mêmes intrinsèquement à avoir cette notion de l'infini, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome, à l'échelle de l'univers, de l'infini, que nous n'avons pas, nous, naturellement, puisque nous sommes finis et que nous pensons vivre avec notre corps.
Irène, cette notion d'immortalité que l'homme a besoin de ressentir, et Thierry, dans son livre, décrit donc différentes civilisations. Après, le clinicien ou typique pourrait dire, oui, c'est de l'angoisse de mort et on essaie de s'apaiser notre peur de mourir.
Alors, il y a deux choses, parce que ce qui est décrit dans les civilisations, c'est plus de savoir ce qu'il y a après, d'une façon très matérielle, en restant sur ce qu'on est aujourd'hui. Et donc il y a cette notion de post-mortem qui est, j'ai envie de dire, qui est permanente. L'immortalité, c'est encore autre chose, c'est de savoir ce qui reste,
ce qui perdure. Quand le corps n'est plus là, quand le cœur s'arrête de battre.
Ouais. Exactement, donc c'est deux choses différentes, parce que post-mortem et immortalité, c'est deux concepts différents.
Absolument. C'est pour ça, Thierry, que je dis que l'erreur, c'est de croire que nous mourrons. En fait, on ne meurt pas. C'est notre corps qui s'écroule. C'est l'association instable de nos particules élémentaires, de nos atomes, qui s'effondre. Pourquoi ? Parce que l'architecte qui nous a construits a mis du mauvais béton et du mauvais ciment, donc on se casse la gueule au bout d'un moment. Voilà. Mais notre vraie vie, qui elle est constituée de nos ondes cérébrales et d'énergie, qui sont comprises à l'intérieur de cette fameuse onde de valence et onde donc moléculaire générale, si vous voulez, en quelque sorte, hein, elle ne bouge pas. C'est notre vraie vie. Et celle que nous avons aujourd'hui à l'instant présent, ce sera la même dans un siècle, deux siècles, mille ans, un milliard d'années. Cette composition-là, elle est pas immortelle, elle est intemporelle. Intemporelle, mortelle, ça veut dire que vous arrivez, ça disparaît. Là, on ne disparaît pas. On a une naissance, et c'est ça qui est drôle, c'est que nous avons une naissance avec une constitution d'une individualité qui est faite d'ondes, hein, et d'énergie. Et ces ondes et ces énergies qui sont portées par notre corps, le jour où le corps n'est plus là, elles perdurent dans le monde qui est un monde parallèle, un monde d'énergie, un monde d'ondes, puisque dès lors que vous savez que toute onde est matière, que toute matière est onde, sachez que quand vous regardez un arbre, l'arbre que vous avez en face de vous, si vous tapez la tête dessus, vous voyez qu'il est dur. Eh bien non, il est dur, oui, mais c'est aussi une onde, et l'onde, elle est partout. Et l'arbre, il est partout.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je me rappelle d'un roman américain d'il y a quelques décennies qui s'appelle Le Bar de l'Éternité. Mm-hmm. Alors, c'est un roman, là, on est dans de la fiction, mais on peut dire qu'il y a quelque chose là-haut, hein, voilà. Et là, dans le bar de l'Éternité, les âmes, là-haut, se demandent au bar si elles décident de redescendre, c'est-à-dire de revenir sur ce plan-là. Parce que dans ce cas-là, quand même, il y aurait plusieurs plans, vous voyez, Thierry. Il y a un plan, quand même, où on s'incarne, n'est-ce pas, Volins, Nolins, on a choisi un père, une mère, quelqu'un nous a porté 9 mois dans son ventre. Voilà, et dans le bar de l'éternité, il dit alors tu vas redescendre toi, oui, et alors dans l'idée c'est de redescendre pour créer. En bas on crée, en haut on crée pas, en bas on crée, mais il y a aussi tous les contrastes, les maladies, les deuils et tout. Qu'en pensez-vous de
ce qui est amusant, c'est de penser que en bas on crée et qu'en haut on crée pas, parce que notre cerveau crée depuis la naissance, et les ondes de notre cerveau, pourquoi voulez-vous qu'elles se mettent à devenir stériles sous prétexte que notre corps n'est plus là?
Mon père disait ça, un ami en astrinange médium qui disait j'ai du travail en ce moment, je ne peux pas trop redescendre.
Les seuls et uniques qui ont réalisé sans le savoir la réalité sont les Japonais, qui disent qu'une fois que les gens meurent, les morts restent avec les vivants. Mais c'est exact. Quand Mitterrand disait « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas ».
Je crois aux forces de l'esprit.
Eh bien, il a parfaitement raison. Alors, autant je n'étais pas d'accord sur beaucoup de points de sa politique, autant sur ce point, c'était... Bon, d'abord, c'était quelqu'un d'intelligent et d'instruit, c'est évident, mais il avait raison, entièrement raison. Nous ne quittons pas la Terre, nous y restons. La seule chose qui nous est permis, c'est que, n'ayant plus la notion d'espace-temps, vous pouvez, dès lors, aller voir Vivaldi jouer du violon à Venise en 1700, si ça vous fait plaisir, voir la gueule des dinosaures, ou vous reporter dans n'importe quel point de l'univers.
C'est la fin de Lucie, ça. C'est la fin de Lucie par Besson, quand il montre ça et que Scarlett Johansson peut aller partout, c'est la belle image de la fin de Lucie, hein, où on voit, elle part dans tous les temps, c'est un très beau film de Besson.
Les cinéastes se servent au maximum des découvertes scientifiques.
Mais nous aussi, les gens des sciences humaines, donc...
Et donc, si vous voulez, on va se retrouver dans cette vie. Et cette vie, c'est la vie terrestre que nous avons. La vie terrestre que nous avons, elle est matérielle et immatérielle. Alors, c'est difficile à comprendre que dans ce bureau, vous avez dans ce studio de radio, nous avons des tables, des micros, etc., que tout ça est matériel, mais nous avons les mêmes en immatériel. Les mêmes choses. Difficile à comprendre.
C'est difficile à comprendre, mais je trouve que votre livre vulgarise bien ça. Ceci dit, Volins Nolins, un individu, il a 1922-2012 pour beaucoup de gens. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Et il faut un niveau de compréhension, de conscientisation, de travail sur soi assez énorme. Vous comprenez bien, parce que beaucoup de gens n'en sont pas là. Je veux dire, d'abord, nous-mêmes, on dit dans nos métiers, combien de gens font-ils un travail sur eux, ne serait-ce qu'un travail sur eux, pour le connais-toi toi-même socratique, déjà essayer de comprendre voilà, ce qui s'est passé dans leur histoire de vie, leur père, leur mère, vous voyez. Donc vous êtes à Mach 4. Thierry, vous comprenez? Et je trouve votre livre passionnant parce qu'il permet qu'un livre à Mach 4 soit compréhensible par beaucoup de gens. Et ça, c'est bien.
Je pense très sincèrement que si tous les humains avaient la notion de notre conception réelle de la matérialité de notre corps et de l'immatérialité intemporelle de notre vie, ça changerait beaucoup de choses dans la vie. On arrêterait peut-être de se faire la guerre. Et ça nous rendrait peut-être un peu plus responsables. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une irresponsabilité mondiale totale. total. On n'entend que de conflits, de guerres, etc. C'est invraisemblable. Et en plus, les gens ne sont même pas réellement informés de ce qui se passe réellement, parce que je peux vous garantir que moi qui le suis, je sais exactement ce qui se passe dans le monde à chaque minute, à chaque instant, et ça n'a rien à voir avec ce que vous attendez dans les radios et les télévisions. Mais hormis ça, je pense que tout individu, même ma femme de ménage ou ma concierge, si elle avait cette notion de corps d'un côté, d'esprit de l'autre et de retrouver, déjà ça les aiderait beaucoup, ne serait-ce que psychologiquement dans la perte des êtres chers, savoir qu'ils ne les perdent pas, mais qu'ils les perdent simplement de vue, mais pas d'onde ni d'esprit, et qu'ils vont les retrouver une fois que eux, leur corps sera parti, et ça va changer beaucoup de choses. Alors les gens se disent, mais s'ils sont là, pourquoi on les perçoit pas?
Je peux vous poser une
pas.
Question là-dessus. Juste parce que j'ai une amie qui, elle, les voit et les entend. Oui. Il y a des médiums comme ça. Mon père était mort il y a quelques mois, et mon père était mort assez violemment d'un cancer, mais était parti dans la nuit, et elle avait 37 ans, et les anges, les morts lui parlaient, elle lui dit, mais il est là, ton père. Ça rejoint ce que vous dites. Et elle me disait que mon père était sur le canapé. Elle a dit des paroles de mon père. Elle ne pouvait pas connaître mon père. À 37 ans, elle n'avait jamais vu mon père, ni d'Ève, ni d'Adam. Et il avait retrouvé Marcel. Marcel, c'était le meilleur ami de mon père. Il était là avec lui. Et à un moment donné, elle lui a dit, alors il est mort. Et mon père a dit, je suis mort. Ah bon? Je ne m'en rends pas compte.
Bah, il peut pas. Et votre père, s'il a dit ça, c'est juste, puis il n'est pas mort. En aucun cas, il n'est pas mort. Son corps est reparti,
c'est quand même incroyable,
à l'univers, mais il n'est pas mort. Alors, le problème, c'est la perception de nos ondes cérébrales. Si nous arrivions, imaginez deux secondes, qu'on arrive à percevoir les ondes cérébrales de tout le monde, on devient fou. Vous imaginez, si je sais ouais. déjà dans votre ouais. pensée ce que vous êtes en train de penser de moi, ouais. madame aussi, etc. C'est pas possible. Donc, au même titre que nous ne pouvons pas percevoir les ondes radio, les ondes de la télévision, on n'a pas de capteur pour ça. Donc, on ne peut pas percevoir les ondes cérébrales. Donc, quand vous dites « il y a des médiums, etc. », alors, ce sont des cas particuliers, inexpliqués, sur lesquels on ne peut pas dire « vous avez raison, vous avez tort » parce
qu'on ne peut pas
le vérifier. Ouais. Moi, je peux vous faire parler les morts de tous les morts que vous voulez, vous ne pourrez jamais vérifier si c'est vraiment les morts qui m'ont parlé.
Mais elle ne pouvait pas savoir que Marcel était le meilleur ami de mon père. Et elle employait les mots que mon père employait.
Oui.
Thierry, je vous assure, mais je ne vous invente pas l'anecdote.
Je ne mets pas ça en doute, ouais. mais je dis simplement que pour la quasi-totalité de la population ne peut pas capter.
Ah non, mais c'est des gens hors normes, ils sont très peu nombreux sur la Terre.
Les ondes hors normes.
Les gens-là.
Je dirais que ce n'est pas parce que nous n'avons aucune expérience de la captation des ondes cérébrales que nous devons affirmer que ce n'est pas possible. Disons qu'on ne sait pas, point. Alors vous me dites que cette personne a, comment dire, capté ces ondes. Nous avons tous en souvenir, quand nous perdons un être cher, des ondes qui nous apparaissent, et en particulier le soir quand elle est dans sa chambre, dans son lit, et qu'on voit son père, sa mère, son grand-père, etc., dans un coin de la pièce qui vous regarde, et on les voit, et ils sont là, et on les voit, et ils nous parlent, on ne sait pas ce qu'ils racontent parce qu'on ne les entend pas, mais on les voit. Donc ça, ce sont des images subliminales qui fait que ça peut être des constructions de notre cerveau, comme ça peut être effectivement une émission d'ondes que nous pouvons percevoir. Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Moi, j'ai trois expériences dans ma vie d'enfant, de vie de bébé, et je dois dire que je n'ai jamais eu la moindre explication. C'est pour ça que je mets toujours en parenthèse les affirmations des uns et des autres en disant « ça n'existe pas, c'est n'importe quoi ». Non, il faut être raisonnable. Quand on dit « vous me dites, on ne sait pas ». J'ai un souvenir de l'âge de 3-4 mois, où mes parents me présentent à ma grand-mère, je suis dans mon berceau, je vois le pourtour de mon berceau à peu près convenablement, tout est gris, tout le reste est dans un brouillard indéterminé, et j'entends mon père à ma droite, ma mère devant, ma grand-mère de l'autre côté, et une dame que j'ai jamais connue, qui était à gauche. Et j'ai répété mot pour mot tout ce qui avait été dit à mes parents 20 ans plus tard, ils étaient sidérés, or nous n'avons pas eu de photo, pas d'enregistrement, rien. Je vous parle de mes années 1953. Vous savez, la technologie, ce n'était pas brillant à cette époque. Et le fait extraordinaire, c'est que j'ai la vision de ma personne dans mon berceau. Donc, j'ai pu définir à ma mère comment j'étais habillé, à quoi je ressemblais. J'avais plein d'eczéma partout. Et je me grattais facilement, donc j'étais en sang facilement. Et j'ai eu la vision dans l'angle exact de la vision de ma mère.
C'est fou.
C'est-à-dire
hein.
que ma mère m'a regardé et m'a transmis obligatoirement ces ondes visuelles. Comment moi, bébé, je les ai captées, c'est pas on ne sait pas. J'ai posé la question à tous mes amis scientifiques. Tous m'ont dit, ce n'est pas des images subliminales, ce n'est pas du vécu retranscrit, on n'en sait rien. Point. Alors, quand on ne sait pas, on ne sait pas.
Quel est, j'ai une question là-dessus, parce qu'on arrive bientôt, c'est passionnant, hein, on n'a pas vu l'émission passer. Quelle est l'espérance de télomérase? C'est quoi cette espérance de télomérase pour nos auditeurs?
C'est la vie immortelle. Vous avez, c'est le ciment qui permet à la maison de tenir. Ces télomérases, c'est ce qu'il y a de chaque côté de nos chromosomes qui nous permettent la reproduction de nos cellules. Sauf qu'à chaque fois qu'elles se reproduisent, elles s'usent un peu. C'est comme si vous frottez votre coude sur la table à chaque fois, ça finit par s'user. Donc, moralité, les cellules qui sont recréées, eh ben, elles ne sont pas performantes, elles ne sont pas à 100%. Il y a toujours un trou dans la fenêtre, un trou dans la porte, il y a de l'air qui passe, etc. C'est ça, en fait, le problème. Et ce qu'ils essayent de trouver, c'est comment faire en sorte que ça ne s'use pas. Si ça ne s'use pas, eh bien, ça veut dire que l'on pourra,
vivre 170 ans ou
millions d'années si on veut, puisqu'on sera recréé toutes les 3 semaines à l'identique. La seule chose qu'on ne crée pas, c'est nos neurones. Alors quand vous n'en avez pas, dès le départ, comme tous ceux de l'Assemblée nationale, je peux vous garantir que ça ne vient pas, ça ne se crée pas.
Là-dessus, je vous suis, mais alors, plus qu'à 1000%.
Et donc, automatiquement, si vous voulez, c'est pour ça. Mais ce que tous ces braves gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que se situe encore à un niveau matériel et que le problème des télomères, c'est toujours ce problème des électrons qui sont ondes et matières et qui vont se promener là où il ne faut pas. Parce que quand vous dites que vous avez une matière qui s'use, la matière qui s'use, c'est simplement parce que vous avez des particules qui foutent le camp, qui vont voir ailleurs ce qui se passe. Donc elles ne restent pas. Et si elles ne restent pas en place, eh ben on vieillit et puis on finit par se casser la figure.
Je vais vous poser une question. On est très passionnés, Irène et moi, par les maladies. Pourquoi est-ce... Alors, on dit que certaines personnes se créent leurs maladies alors que d'autres ne se les créent pas.
Alors, la création, si vous voulez, c'est l'angoisse. Ça va être perturbation du système qui permet, je parlais des mitochondries tout à l'heure, qui permet aux cellules de pomper les électrons, les protons, les neutrons, les atomes dont ils ont besoin pour recréer de la matière, pour créer de la vitamine, pour recréer tout ça. Donc, si vous bloquez d'un point de vue physiologique un certain nombre de fonctionnements organiques, ces transferts d'électrons, de protons, de neutrons, de particules ne se font plus. Et dès lors, vous tombez malade, vous créez des
Pour les maladies mentales, Irène.
Alors, c'est peut-être un petit peu différent pour les maladies mentales. Enfin, j'ai envie de dire quoique. Mais il y a vraiment cette question de voir que on en revient à cette question de la pensée qui crée, de la pensée créatrice et de la pensée quelquefois de personnes qui sont pas. Je vais le dire comme ça, bien incarné sur Terre, on ne sait pas si on est là, si on veut rester, ce qu'on veut faire, et du coup, il y a une forme de destruction intrinsèque, presque.
Alors, ce que vous dites est très intéressant, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons des ondes qui sont la confirmation de notre existence organique, hein, qui sont des ondes produites par notre corps, si je puis dire, par l'action, et nous avons la pensée. Quand vous parlez d'une maladie dégénérative, de l'esprit du cerveau, c'est une dégénération organique. Ça n'a rien à voir avec la pensée réelle ni l'intelligence. C'est pour ça que vous avez des enfants autistes, etc., qui ne peuvent pas communiquer avec les autres et qui sont parfois extrêmement brillants, extrêmement intelligents, mais leur intelligence est prisonnière à l'intérieur de cette onde moléculaire, cette onde de valence. Hein, mais à part ça, l'action donc, qui, elle, ne se fait pas convenablement, c'est une action physique. C'est des ondes qui sont au niveau physique. Les malades mentales répondent à un dysfonctionnement neuronal très précis qui n'a strictement rien à voir avec la pensée, l'esprit, l'intelligence, l'énergie et l'onde qui est notre vraie vie, notre vraie conception.
Thierry, nous arrivons en fin d'émission. J'aimerais vraiment qu'on vous pose deux dernières questions. On n'a pas vu le temps passer, je suis désolé. Oui. Vous reviendrez ?
On
fera un tome 2. On fera une deuxième édition, n'est-ce pas ? Deux dernières questions, Thierry. Paul Milman. D'abord, vous dites à un moment donné, toute la vie est animée par les électrons. Là-dessus, on l'a vu. L'a vu pendant l'émission. Après, dernière question, qui est vraiment vers la fin de votre livre. Peut-on dissocier la matière et l'esprit ?
Bah oui. Ah oui, c'est l'essentiel, on vient d'en parler pendant
une heure. On vient d'en parler pendant une heure, on la dissocie là, typiquement.
Le corps, c'est une chose matérielle, l'esprit est immatériel. L'esprit, notre intelligence, est fait d'ondes et d'énergie indépendant de notre corps. Notre corps disparaît, notre intelligence, notre énergie, notre pensée, elle, perdure. Nous sommes intemporels. Mais pas mortel. Notre corps n'est pas plus mortel puisque la totalité de notre corps retourne à la nature, retourne à l'univers pour reformer d'autres vies, d'autres matières. Donc ils sont eux aussi, j'allais dire, immortels. Non, ils sont intemporels.
Et on peut imaginer qu'avec l'évolution des sciences, et d'ailleurs vous y apportez votre pierre à l'édifice, peut-être que dans 100 ans, même 50 ou à 150 ans, on va trouver de nouvelles découvertes qui fera que peut-être ces mondes-là seront... abordable, accessible.
Je dirais que il faudrait trouver le moyen de capter l'onde cérébrale et de pouvoir voir la globalité d'un individu comme un hologramme en quelque sorte, vous voyez. Donc si on arrivait à avoir cette captation, le passé, si vous voulez, la personne morte, entre guillemets, hein, la personne qui est devenue simplement onde et énergie, pourrait communiquer avec le vivant à travers cette captation d'ondes. Donc il nous faut créer un matériel pour capter ces ondes et pouvoir les reproduire. Je ne dis pas que ce sera impossible.
Ce ne sera pas,
mais pourquoi pas. Il y a le dernier point, je dirais que, vous avez un tas de gens qui essayent de chercher l'immortalité matérielle. Hein, ils y sont tous. Tous les grands milliardaires américains, ils ont tous investi là-dedans.
Bon, Elon Musk et tout
ils
ça.
Ils perdent leur temps totalement. Ils font fausse route. Nous sommes intemporels. D'un point de vue purement, je dirais, littéraire, immortels réellement. Je mets au défi n'importe quel physicien, médecin, chercheur de me démontrer le contraire de ce qui est écrit dans ce livre, puisque je me suis basé sur des découvertes de la physique quantique, qui sont des lois effectivement démontrées, fiables dans tout l'univers. Et donc la seule chose que j'ai faite par rapport à tous ces scientifiques, c'est que j'ai réuni toutes les pièces du puzzle pour donner l'image de la réalité de notre vraie vie. C'est
ça. Thierry Paul Vallet, toute notre gratitude et merci d'avoir commis ce livre, d'être venu du côté de Dynamic Radio. Toute notre gratitude, Irène Cazenave aussi.
Merci.
Notre gratitude à la régie et à la technique sans qui cette émission n'aurait pas pu exister. Chers amis auditeurs, vous allez pouvoir réécouter plusieurs fois en podcast cette émission parce que Dieu sait s'il y a du contenu, Dieu sait si c'est profond. Et surtout, procurez-vous ce livre de Thierry Paul Milman, Ondes et énergie cérébrale dans la physique quantique et le sous-titre, surtout L'immortalité dans un monde parallèle mais bien réel aux éditions Vérone. Vous reviendrez, Thierry ?
Quand vous voulez.
Allez, on vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons coachés. Et n'oubliez jamais, comme disait Voltaire, cher à votre grand ami qui doit nous écouter aujourd'hui, monsieur Jean d'Ormesson, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. À la semaine prochaine.
Pour vivre heureux, vivons coachés. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.